Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure de télévision et de radio en compagnie des informés. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous l'avez fait, oui, cette foutue semaine de rentrée, elle est derrière vous. Vous savez, cette semaine avec ses embrassades interminables, ses vœux auxquels il faut répondre, avec cette galette indigeste et puis ses pots de nouvelle année, tout cela alors qu'il est, c'est terminé. Vous êtes en week-end, peut-être tranquillement installé devant votre télévision ou mieux encore coincé dans les embouteillages avec personne pour vous déranger pendant votre émission de débat préférée. Bonsoir à vous les informés. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Voilà, on se réveille. Alors, laissez-moi vous présenter. Les informer un petit peu assoupis ce soir, mais vous allez voir, ça ne va pas durer. Je vais vous les présenter, chers auditeurs et téléspectateurs. Bonsoir, Marie-Virginie Klein.
Bonsoir.
Vice-présidente de Willa, c'est une association de créatrices d'entreprises. Bonsoir à vous, Franck Dedieu.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. À côté de vous, Éric Scholl. Bonsoir.
Bonsoir, Olivier.
Directeur de la rédaction de L'Express et Arnaud Clerc. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Avocat spécialisé en droit du travail au barreau de Paris. Ils sont en forme, donc reposés avec des arguments tout neufs, prêts à ferrailler. Allez, c'est parti pour une heure de débat. Stop ou... Encore, c'est notre premier thème ce soir. Autrement dit, ce mouvement social de contestation des retraites peut-il trouver prochainement son épilogue? On attendait finalement beaucoup de cette journée, de ce vendredi, puisque le gouvernement recevait toute la journée les partenaires sociaux. À la fin de cette journée, Édouard Philippe a d'ailleurs voulu se montrer, comment dire, relativement optimiste. Écoutez.
Ce soir, nous avons bien avancé dans la recherche du compromis que nous souhaitons obtenir. C'est donc une journée utile, mais il nous reste du travail. Dès ce soir, je vais rencontrer le président de la République et prendre contact avec un certain nombre de responsables de la majorité pour évoquer les avancées possibles. Et demain, par écrit, j'adresserai aux organisations syndicales et patronales des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis.
Voilà, le Premier ministre à Matignon cet après-midi. Marie-Virginie Klein, cet optimiste affiché donc par le Premier ministre, c'est une posture ?
Ah bah, ça, on le découvrira demain dès qu'il transmettra ses propositions. En tout cas, les trois membres du gouvernement qu'on a vus à l'image étaient extrêmement souriants, ce qui, normalement, est plutôt de bon augure.
On leur donne des consignes, on leur dit, bon, il faut sourire, là, les gars.
En tout cas, les trois souriaient. Alors, est-ce qu'ils ont été briefés avant? Je sais pas. Ou est-ce que c'est un sourire sincère qui montre qu'il y a un réel compromis qui auquel ils sont parvenus? Ça, je sais pas. En tout cas, jusqu'à demain et donc ce soir, pour l'instant, il n'y a de compromis que le mot, puisque l'âge pivot est toujours dans le projet de loi soumis au Conseil d'État, que Gérald Darmanin, etc., a réaffirmé ce matin son soutien à l'âge pivot. Donc, on verra bien demain, suite à ces discussions, si vraiment il y a eu un compromis, sachant que la victoire d'un camp ou de l'autre se décidera autour de la présence ou non de l'âge pivot dans le projet de loi.
Arnaud Clerc, le Premier ministre peut se montrer optimiste ce soir ?
Juste avant lui, Berger a pris la parole en expliquant que effectivement les choses étaient intéressantes, mais surtout un des grands débats c'était la conférence sur le financement, et Berger disait on enlève l'âge pivot et on fait la conférence sur le financement parce que ça c'est important. Et en gros, Matignon disait oui mais attendez, la conférence sur le financement vous voulez faire ça en juillet, c'est trop tard, il faut le faire en parallèle des débats devant l'Assemblée nationale. Or les débats devant l'Assemblée nationale c'est en février, on présente au gouvernement, le gouvernement présente le projet de loi en janvier. Et là, Berger, ce soir, dit qu'il est prêt à changer la date de la conférence sur le financement. Et ça, c'est aussi ça, l'ouverture. Parce qu'on dit que le Premier ministre a l'air de souriant, mais peut-être que le fait que Berger vienne dire « je veux bien discuter du financement et en fait de l'équilibre... »
Alors Laurent Berger, hein, c'est le patron de la CGT,
pardonnez-moi. Qu'il vienne dire « je veux bien discuter de l'équilibre du financement tout de suite, en parallèle du projet de loi », c'est peut-être ça qui est intéressant, puisque Matignon a toujours dit « moi, j'ai l'âge pivot, sauf si vous trouvez mieux ».
Donc, Franck Dedieu, on peut donc être optimiste ce soir.
Je crois pas.
Écoutez,
on parlait d'éléments de langage, mais il y a des sourires, des éléments de sourire quelque part. Non, je crois que il y a pas de quoi véritablement ramener le calme. Effectivement, il y a une avancée de Laurent Berger, mais pardon de le dire, dans le texte qui est soumis, enfin l'avant-projet de loi, il y a encore largement martelé la question de l'âge pivot en 2022. Et puis il y a aussi quelque part. D'ailleurs, on verra apparemment les perturbations perturbations auront lieu ce week-end, quelles que soient les propositions concrètes du gouvernement demain.
Ouais, parce qu'il y a des manifestations hein, qui sont prévues.
Voilà,
donc
déjà, ça peut faire passer le sourire, mais au-delà de cela, il y a cette avancée, cette gouvernance où il y aurait un droit d'initiative à la fois des partenaires sociaux qui se mettraient ensemble pour finalement choisir le montant, proposer le montant de la décote, proposer l'âge pour travailler sur les cotisations. Oui. Mais tout cela, ils vont le faire quand même, je dirais, sous contrainte, et pas n'importe laquelle. Sous la contrainte de l'équilibre budgétaire du système, et sous la contrainte des 14%. Vous savez, les 14%, c'est-à-dire qu'on ne peut pas consacrer plus de 14% des dépenses en retraite par rapport au PIB. Autrement dit, il faut qu'ils se mettent d'accord, alors qu'ils se sont quand même entre eux, tiraillés les cheveux pendant plusieurs mois, et il faudrait qu'ils tombent d'accord pour finalement réduire les pensions des futurs pensionnés parce qu'ils sont
sous... Et donc ça vous paraît pas possible.
Mais parce qu'ils sont sous contrainte, ils sont sous une contrainte d'équilibre. On leur donne un droit d'initiative avec une contrainte telle qu'il faudrait qu'ils avalisent une baisse des pensions. Ils ne le feront pas.
Donc ça, c'est pas possible.
Ben, j'ai du mal à le penser. Alors en revanche, après, évidemment, ça sera le Parlement qui prendra la main et qui le fera d'ailleurs de façon, on pourrait dire ça, démocratique. Il ne s'agit pas de dire que c'est un coup d'État du tout, mais c'est le Parlement qui prendra la main. Donc il y a un jeu de dupes. On essaye finalement de mettre autour de la table des partenaires sociaux en leur disant, vous avez quand même un droit d'initiative, vous n'êtes pas complètement squeezé, vous n'êtes pas complètement contourné, mais compte tenu de la contrainte financière, je n'y crois pas.
Va-t-on sortir de ce conflit social autour des retraites? On continue à en débattre dans Les Informés, mais d'abord, il est 20h10, l'essentiel de l'info, c'est avec Guillaume Fariol.
Emmanuel Macron souhaite l'organisation d'un référendum sur certaines des mesures qui sortiront de la Convention citoyenne sur le climat. Le chef de l'État rencontre pour la première fois les 150 Français qui planchent depuis 4 mois sur une série de propositions à l'exécutif. Propositions destinées à lutter contre le réchauffement climatique. Le Premier ministre salue des discussions très franches, très constructives et très utiles. Édouard Philippe a rencontré toute la journée les partenaires sociaux pour de nouvelles négociations sur la réforme des retraites. Il leur présentera demain des propositions concrètes par écrit. Ce week-end, la grève contre cette réforme se poursuit. Comptez 80% des TGV en circulation, la moitié des TER, 40% des Transiliens. À Paris, toutes les lignes du métro seront ouvertes, mais avec un trafic très partiel. Une enquête ouverte par le parquet de Paris après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle montre un policier qui semble tirer avec son LBD à bout portant sur un manifestant. C'était hier pendant le défilé contre la réforme des retraites dans la capitale. Les enquêteurs ukrainiens envoyés en Iran ont obtenu l'accès aux boîtes noires après le crash de l'avion d'Ukraine Airlines près de Téhéran. Plus de 170 morts avant-hier. La piste d'un tir de missile iranien est envisagée par plusieurs pays occidentaux. Et puis en volée, le match débute à l'instant. L'Allemagne face à la France. Le vainqueur se qualifiera pour les Jeux Olympiques de Tokyo.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et vous connaissez la ritournelle, 1 km à pied, ça use le moral des banlieusards qui ont vécu leur 37e jour de grève dans les transports publics. Le gouvernement, donc, on le disait, hein, recevait les syndicats aujourd'hui, parmi lesquels la CFDT, bien évidemment, qui détient sans doute l'une des clés de déblocage de la situation. Je vous propose d'ailleurs d'écouter tout de suite Laurent Berger, le secrétaire général du syndicat, à sa sortie de Matignon. Il est quand même moins optimiste que le Premier ministre qu'on a écouté il y a quelques instants.
On a senti, je vais le dire, une volonté d'ouverture dans la parole. Mais encore une fois, je dirais, comme je l'ai dit depuis maintenant quelques jours, tout ça se mesure in fine aux actes. Et les actes, évidemment, nous n'avons pas eu les réponses ce soir. J'espère que très très vite, parce que ça n'a que trop duré. Et je crois que finalement... La logique un peu d'affrontement qui est celle des dernières semaines nuit à un vrai débat sur un système universel juste. Eh bien, on espérait avoir été entendu. Et donc la CFDT, eh bien, pour l'instant, elle continue de revendiquer la fin de l'âge pivot dans cette loi et elle continuera de le faire.
Bon, Éric Scholl, on vient d'entendre Laurent Berger hein, qui parle de volonté d'ouverture, mais pas encore d'acte. Vous croyez qu'on est sur la piste d'un début de règlement de ce conflit ?
Alors, je suis peut-être naïf et ou optimiste, mais ou les deux, mais je pense que oui. Contrairement d'ailleurs à mon voisin, je pense qu'effectivement, il se passe quelque chose en ce moment, et pour beaucoup de raisons. Rappelez-vous déjà ce qu'a dit le président de la République lors de ses vœux. Il avait demandé un compromis rapide. Rapide, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on va pas attendre.
Enfin, vous demandez des trucs quand vous êtes président de la République, mais enfin, et pas forcément. Hein.
C'est dans la besace du Premier ministre de trouver un compromis rapide. Et il a conscience qu'il va falloir y arriver, que les points de vue étaient évidemment très éloignés, mais on sent que maintenant, ce qu'il faut pour eux, c'est trouver une sorte, non pas de formule magique, mais arriver à trouver une sorte de formule dans laquelle on arrive peut-être à garder l'âge pivot, il faut voir. Pour le moment, il est plus de 35 fois dans le projet, 39 fois dans le texte de loi, dans le projet de texte. On peut trouver dans la négociation, se dire que ça soit pour le reporter à plus tard, que ça soit aussi sur la conférence de financement, donner des billes là-dessus aux partenaires sociaux. Donc moi, je suis assez confiant. Oui. J'ai l'impression qu'on arrive dans l'acte final de la négociation.
Bon, Éric Scholl confirme. Marie-Virginie Klein, sur quoi finalement le gouvernement peut-il lâcher ?
Bien heureux celui qui pourra le prédire.
Non, mais sur l'âge pivot, par exemple, est-ce qu'il peut revenir sur ce fameux âge pivot sans finalement remettre complètement en cause l'architecture de sa réforme ?
Oui, parce qu'il y a toute une série, c'est-à-dire qu'on peut très bien retirer l'âge pivot, mais en essayant de jouer sur toute une série de mécanismes à côté. Cette réforme, elle est très complexe, et il n'y a pas que l'âge pivot, même si aujourd'hui, symboliquement, tout se cristallise autour de ce sujet. Alors moi, ce qui me fait peut-être dire qu'on est potentiellement vers un compromis, c'est que malgré tout, les syndicats sont peut-être un petit peu moins puissants aujourd'hui
qu'au
début du mouvement.
Pourquoi ? Parce qu'il y avait moins de monde hier dans les rues ? Parce qu'il y a une lassitude ?
Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, les grévistes, c'est surtout se limitent vraiment aux bénéficiaires des régimes spéciaux, et que finalement, la grève ne passe pas vraiment le cap du public. C'est-à-dire que en 95, le public, le privé, tout le monde s'y mettait. Là, aujourd'hui, c'est quand même très limité, et la plupart des Français ne suivent pas.
Certains vous diront qu'elle reste populaire.
Oui, alors c'est toujours les chiffres dans les... Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, ça reste confiné au public.
Arnaud Clair, sur quoi le gouvernement peut lâcher ? Sur quoi on pourrait aboutir ?
Le gouvernement, je pense qu'il ne peut pas lâcher sur l'équilibre financier, parce qu'il a toujours dit c'est l'équilibre financier qui compte, je fais cette réforme et en plus, il faut que ça soit équilibré. Et je pense que quand les Français disent « je suis d'accord pour une réforme de la retraite », c'est parce qu'ils disent « je suis d'accord pour que ça fonctionne enfin correctement et qu'on est peut-être... que tous les ans, on ne vienne pas me dire qu'il faut modifier tout ça. » Donc c'est pour ça, je pense effectivement que la conférence de financement, ça va être une solution, parce qu'on peut très bien venir dire, on avance la réforme et on met tout de suite la conférence de financement en marche pour trouver parallèlement au débat de parlementaires la solution financière avec cette règle d'or effectivement qui est de dire... Il faut que ça soit à l'équilibre. Et c'est peut-être une solution, sachant que cette histoire d'âge pivot, c'est quand même assez rigolo. Vous avez la GIRC-ARRCO qui est gérée notamment par les partenaires sociaux, où il y a un âge pivot. Depuis un an, il y a ce qu'ils ont appelé l'âge d'équilibre, qui est de 63 ans. Et donc, si vous voulez partir à la retraite, si vous partez avant 63 ans, ben, vous avez un malus. Si vous partez après, vous avez un bonus. Donc, cette histoire d'âge pivot et d'équilibre financier, les partenaires sociaux, ils y ont déjà pensé, ils l'ont déjà négocié.
Ouais, ça existe déjà.
Ça existe déjà.
Franck de Dieu, y a donc quand même des voies sur lesquelles, des pistes qui pourraient permettre de sortir du conflit ce soir. C'est ce que vous disent les autres.
Hein. Évidemment qu'il y a des pistes parce qu'il y a plusieurs leviers. Il y a le levier de l'âge pivot. Alors, on peut dire 64 ou 64 moins quelques mois selon la... Bon, il y a le levier de la pénibilité, il y a le levier, pardon de le dire, mais de la décote bonus-malus, ça peut être 5, ça peut être négocié à 3, etc. Ce qui, effectivement, il peut y avoir un accord, parce qu'il y aura un accord tout de même, on ne voit pas, ça ne va pas durer éternellement. En revanche, il est possible que pour que chacun, je dirais, ne mange pas son chapeau ou tienne, parce que ça tournait un peu quand même un peu à un combat de coq, eh bien que, quelque part, on introduise davantage de complexité pour voiler un peu les reniements réciproques.
Vous dites quoi ? Vous dites que finalement, cette réforme, avant même qu'elle soit adoptée, elle est déjà foutue ?
Non, je dis pas ça. Je dis simplement que si on veut arriver à un compromis, ça passera forcément, et c'est à peu près comme ça dans tout. On pourrait parler tout à l'heure de la convention sur le climat. À partir du moment où les gens sont sur des postures et ils veulent garder une certaine contenance, eh bien, il va falloir introduire encore plus de complexité pour masquer ce reniement. Et là, il y aura un problème au niveau de l'opinion publique. Peut-être pas des acteurs, peut-être pas des syndicalistes, peut-être pas du gouvernement, mais au niveau de l'opinion publique, il y aura le sentiment que ça s'arrête, mais alors on n'a rien compris.
Ouais. Éric Scholl, Marie-Virginie Klein nous disait que finalement, peut-être que les syndicats sont moins puissants qu'au début du mouvement. En même temps, ils restent étonnamment unis, alors que toute la stratégie du gouvernement, c'est justement de détacher, on disait, la CFDT, l'UNSA. Est-ce que ça, c'est pas une surprise au bout de 37 jours quand même de conflit?
C'est pour ça que le gouvernement doit impérativement trouver une autre solution. Il n'est pas arrivé forcément par la division des syndicats. Et aujourd'hui, il comprend bien qu'il va falloir négocier. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une façon d'emballer cet accord. De façon à ce que les différents protagonistes ne perdent pas la face. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et parce que on parlait de l'âge pivot. L'âge pivot, il n'est pas essentiel dans cette réforme. En revanche, politiquement, il est effectivement essentiel pour le Premier ministre, mais aussi finalement, pour la majorité.
Et pour la CFDT, qui cesse d'en parler.
Et pour la CFDT, à partir du moment où effectivement le Laurent Berger en a fait une ligne rouge.
Arnaud Clair?
Non. Et puis il y a peut-être un autre élément à prendre en compte, c'est que c'est bien de faire un accord avec la CFDT, mais si la CGT continue à faire la grève, c'est aussi compliqué. Il va falloir gérer. Exactement. C'est qu'est-ce que je cède à la CFDT pour arrêter la grève, mais si je cède à la CFDT, est-ce que réellement la grève s'arrête? Est-ce que la CGT qui dit « moi, c'est un retrait complet ou rien », qu'est-ce qui se passe après? Il y aura aussi ça, il y a la deuxième petite partie.
Parce que les dissensions syndicales, c'est pas forcément, à terme, quand on est garant de l'intérêt général, c'est pas forcément une victoire pour le gouvernement. Ouais. Par rapport à la ligne rouge de l'âge pivot, il y a deux lignes rouges qui traversent le gouvernement. C'est-à-dire qu'effectivement, pour la CFDT, c'est une ligne rouge pour y renoncer. Mais le gouvernement, on est à quelques semaines des élections municipales. Il essaye tout de même d'avoir des électeurs de droite. On voit bien qu'il y a un pivot qui se déplace vers la droite. Et pour les électeurs de droite, c'est aussi quelque part, je dirais, une ligne rouge, cet âge pivot.
Alors, nous n'en venons pas vers les élections municipales.
Oui, mais tout cela est malheureusement lié.
Oui, peut-être, mais il est 20h20 sur France Info. Franck de Dieu, c'est l'heure des infos. Avec vous, Guillaume Fariol.
Édouard Philippe fera des propositions concrètes par écrit demain aux partenaires sociaux. Annonce du Premier ministre après de nouvelles négociations à Matignon sur la réforme des retraites. Le chef du gouvernement doit rencontrer ce soir Emmanuel Macron pour, dit-il, évoquer les avancées possibles. Avant cela, le chef de l'État est devant la Convention citoyenne pour le climat. Les Français qui planchent pour faire des propositions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel Macron se dit pour l'organisation d'un référendum sur certaines des mesures qui sortiront de cette convention. Elle se termine fin avril. 3 blessés par balle dans le quartier de Planoise à Besançon en fin d'après-midi. Hier soir déjà, un jeune homme blessé dans ce quartier sensible. Le soir de Noël, une fusillade avait également éclaté et fait 3 blessés. La préfecture de police de Paris évoque des images sorties de leur contexte. Le parquet de la capitale ouvre une enquête après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. Elle montre un policier qui semble tirer à bout portant avec son LBD sur des manifestants. C'était hier pendant le défilé à Paris contre la réforme des retraites. À son tour, le chef de l'OTAN juge crédible la thèse d'un tir accidentel de missiles iraniens après le crash d'un avion d'Ukraine Airlines près de Téhéran. 176 morts avant-hier. Cette piste envisagée par plusieurs pays occidentaux, impossible, répond l'Iran. Et puis l'Euro de handball en Norvège commence mal pour la France. Les Bleus s'inclinent dès leur premier match, 28-25 face au Portugal.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
L'actualité ce soir, c'est donc aussi cette sorte de grand oral d'Emmanuel Macron devant les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat. Alors vous vous souvenez, ça a été l'une des mesures prises pour éteindre l'incendie des Gilets jaunes. L'année dernière, la constitution d'une assemblée de citoyens tirés au sort, chargée de faire des propositions concrètes en matière environnementale. Alors vous allez me dire évidemment ce que vous en pensez, mais écoutez d'abord cet extrait du discours du président de la République ce soir.
Moi, ce que je vous dois en retour, c'est un engagement ce soir. C'est que ce que vous mettrez sur la table, il n'en sera pas rien fait. Au contraire. Et donc moi, je prends l'engagement que sur cette base, des décisions fortes seront prises. Et j'ai vu dans vos débats l'attachement au sans filtre, que ce soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. Ben c'est simple, vous avez mon engagement là-dessus.
Bon, Éric Scholl, cette assemblée, est-ce que c'est autre chose qu'une manœuvre politique dilatoire ?
Pas forcément. Je pense que derrière, il y a quelque chose de très intéressant. Cette idée du sans filtre. Au fond, c'est une réflexion sur les dysfonctionnements de la démocratie. On a un système de démocratie représentative qui fait des lois, qui prend des décisions. Et là, on se rend compte qu'il y a peut-être d'autres moyens, mais qui doivent être aussi démocratiques. Et donc, c'est mettre ensemble des citoyens qui sont pas forcément élus, qui peuvent être tirés au sort. C'est le cas ici.
Ah, ils sont pas élus, oui. Là,
ils sont tirés au sort. Donc, au fond, c'est se dire il y a une légitimité. Et c'est ça, tout le sujet, c'est de savoir quelle est cette légitimité. Parce que ça va être une légitimité d'expert, ça va être une légitimité du fait qu'ils sont tirés au sort. Et ils se rassemblent et on les fait travailler sur un sujet en l'occurrence. Mais on a vu ça ailleurs, on a vu ça en Islande, on a vu ça en Irlande récemment. C'est intéressant le cas de l'Irlande, parce que c'est à partir de ces assemblées citoyennes qu'on est arrivé à des décisions qui ont été actées, validées, par des référendums. Oui, on a reparlé du référendum. Vous voyez que ça peut être intéressant.
On va y venir, parce que le référendum, le président de la République a estimé que certaines propositions pourraient être présentées par référendum. On peut attendre quelque chose de cette assemblée, Marie-Virginie Klein ?
Alors moi, je suis un peu comme Éric Scholl, j'y crois beaucoup. Et d'ailleurs, on a même vu ça encore plus tôt, du temps de Platon dans la démocratie athénienne, où effectivement il y avait un tirage au sort pour que les citoyens discutent entre eux de la République. Moi, j'y crois beaucoup. On matérialise le fait qu'on est rentré dans l'ère de l'écologie et rien que pour Emmanuel Macron, cet enjeu est décisif, absolument décisif. Et pour la première fois, on ne fait pas que consulter des citoyens, on les fait décider, on les fait plancher et ils se mettent vraiment à travailler et à proposer des idées. Je trouve que c'est une démarche qui est quand même radicalement nouvelle. On n'invite pas seulement les citoyens à dire ce qu'ils pensent, on les invite à proposer des idées et être dans une démarche constructive aussi de co-fabrication de la République qu'on veut avoir. Donc, dans toutes ces idées, je pense que certaines seront sélectionnées et les soumettre à un référendum, moi, j'y crois.
Arnaud Clair, je vous sens dubitatif. Vous croyez en cette démocratie participative ?
Si, j'y crois. En plus, ce serait bien que ça fonctionne.
Mais vous avez le droit de pas y croire.
Mais j'y crois d'autant plus que...
Moi, ça m'arrangerait presque que vous ne soyez pas d'accord.
Mais malheureusement, j'ai laissé ça à mon quatrième camarade. Non, j'y crois d'autant plus que quand ça a été créé, le président a expliqué qu'il suivrait les recommandations, qu'il ferait des propositions, soit par le règlement, il l'a redit ce soir, soit par la loi, soit par le référendum. Lors de ses vœux, à la fin de l'année, il en a reparlé. Et là, ce soir, il remet une couche en disant « Je ferai ce que vous me direz, j'écouterai vos propositions, j'y travaillerai, je reviendrai même vers vous pour vous expliquer ce que je vais faire. Et j'aurai donc les trois choix, soit un règlement, soit par le règlement, soit par législation, soit par le référendum. » Donc c'est une bonne initiative et on verra ce que ça donne.
Alors, Franck Dodieu, est-ce que vous allez être un peu en réaction par rapport à vos trois camarades qui sont dans le politiquement correct?
J'ai fait l'effort de regarder pendant trois quarts d'heure des extraits sur votre chaîne.
C'était si douloureux que ça?
Non, c'était intéressant. C'est intéressant pour plusieurs raisons. C'est que effectivement le président de la République il était respectueux, mais il y avait une forme d'inégalité, je dirais conceptuelle. C'est-à-dire qu'il y avait Monsieur le président de la République. Et puis, les tirés au sort, c'était Mathieu, Paul, Marie, etc.
Ce ne sont que des prénoms.
Oui, mais si vous voulez.
Pas des numéros, mais des prénoms.
Oui, mais cette inégalité d'égard, elle en dit long sur la double légitimité, ou plutôt la légitimité élective de Emmanuel Macron, qui est élu. Alors, on peut s'en féliciter ou non, mais enfin, il a une légitimité démocratique. Et puis, en face, d'autres qui ont une légitimité de tirer au sort. Mmh. Et dans les expériences, Éric a raison, on a abouti à des résultats. Mais les expériences, vous ne sortirez pas, notamment quand il y a un processus co-législatif de celui qui est qui a une légitimité soit technique, soit élective, et celui qui a une légitimité du hasard. Le hasard, bon, pardon, mais en République, je dirais, quelque part, l'aristocratie, c'était une forme de légitimité du hasard, quelque part. Donc, la République, c'est quand même le mérite et l'élection.
Alors, ce que vous nous dites, finalement,
là où j'ai envie de vous dire chiche.
Non, attendez, c'est moi qui vais reprendre la main, parce que ce que vous nous dites, c'est que c'est pas dans notre culture. Ce qui est fort possible, ce qui est dans notre culture, en revanche, sur France Info, c'est d'être à l'heure. On va laisser passer la météo, l'info. Nous, on va boire un verre d'eau et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie des Informés.
Calais témoignait de la jungle au Centre Pompidou avec France Info. À travers trois approches, documentaires, photos et témoignages, le Centre Pompidou propose un retour sur la vie dans la jungle de Calais. De l'arrivée des réfugiés au démantèlement en octobre 2016, l'exposition retrace le parcours des exilés, installés dans un camp situé aux abords de la ville. Calais, témoigner de la jungle au Centre Pompidou jusqu'au 24 février 2020, en partenariat avec France Info. L'info sur vos assistants vocaux, c'est France Info. Demandez à votre enceinte connectée.
Je veux écouter les dernières infos.
La diplomatie à l'épreuve des réseaux sociaux.
France Info.
Et tout est plus clair.
Sébastien Léas pour les prévisions météo.
Demain matin, le début de journée sera souvent gris à cause de nuages bas et de brouillard, notamment entre le Piémont pyrénéen, le Poitou, les Ardennes, l'Alsace et les Préalpes. Les grisailles seront plus localisées, des pays de la Loire à la région lilloise et au littoral de la Manche, et le ciel sera juste un peu voilé. Les régions de la Méditerranée, les Alpes, le Jura et les Pyrénées bénéficieront d'une matinée ensoleillée. Progressivement, le soleil va même gagner du terrain. Du sud-ouest à l'Aveyron et la Touraine jusqu'en Île-de-France, les nuages bas vont se dissiper et les périodes ensoleillées deviendront belles et prédominantes. Dans le nord-ouest, les nuages vont s'accumuler demain après-midi, le ciel devenant même très nuageux sur la Bretagne et la Basse-Normandie. Les températures de demain après-midi seront encore en légère baisse. Les maximales afficheront 7 degrés à Nancy, Dijon et Aurillac, 8 degrés pour Lyon, Lille et Strasbourg, 9 degrés à Paris, Caen et Clermont-Ferrand, 11 degrés pour Brest, Cognac, Mont-de-Marsan et Foix, 13 degrés à Marseille et 15 degrés à Perpignan et 16 degrés à Nice et à Bastia. À noter également quelques petites gelées localement durant la nuit prochaine.
Précisément 20h30 sur France Info. C'est avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Non, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. État d'urgence, alerte catastrophe, alarme pour risque très élevé, voire extrême, décrété dans plusieurs parties de l'Italie, en particulier le sud-est. Les feux de forêt ont déjà ravagé là-bas plus de 8 millions d'hectares, provoqué la mort d'au moins 26 personnes et détruit plus de 2000 habitations, sans oublier près d'un milliard d'animaux touchés. Et le front des incendies s'aggrave encore ces dernières heures. Aujourd'hui, le thermomètre s'est encore emballé. Nadine Epstein.
Des vents chauds et secs, des températures avoisinant les 50 degrés et l'inévitable, deux brasiers qui fusionnent. Un méga-feu brûle dans le sud-est de l'Australie. L'état de catastrophe naturelle a été prolongé et des ordres d'évacuation ont été lancés, notamment dans les états de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Les incendies en cours s'étendent sur 300 000 hectares et sur 500 000 hectares. La France a envoyé 5 pompiers. Pendant ce temps, à Sydney, à Melbourne, des milliers de citoyens ont défilé contre ceux qui défendent l'idée que les causes des feux sont criminelles. Leur pancarte, changer la politique, pas le climat. Le Premier ministre conservateur Scott Morrison a balayé la question quand des journalistes lui ont demandé si la gravité de ces feux deviendrait la norme du fait du réchauffement climatique. « Écoutez, nous en avons déjà parlé nombre de fois », a-t-il déclaré, et il conclut que des évaluations auront lieu une fois finie la saison des incendies.
Nadine Epstein en Australie pour France Info. Le conflit des retraites en France suspendu aux annonces du gouvernement promises pour demain samedi par le Premier ministre. Édouard Philippe qui a rencontré toute la journée à Matignon, successivement tous les syndicats, des syndicats qui appellent à nouveau à battre le pavé demain à Paris et partout en France pour une 38e journée de grève. À noter que les fonctionnaires de la police technique et scientifique, eux aussi, sont appelés à une grève reconductible inédite, exacerbée par la réforme des retraites. Ils dénoncent leur différence de statut au sein de la police nationale avec les agents armés. Et puis une enquête judiciaire ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant un policier semblant tirer sur des manifestants manifestants avec un LBD, un lanceur de balles de défense. C'était hier lors de la manifestation contre la réforme à Paris. La préfecture de police justifiant aussitôt l'emploi de ces armes en raison de heurts violents. Le parquet de Rennes lui a ouvert une information judiciaire pour blessure involontaire et ce, un an après la perte d'un œil par un manifestant suite au jet d'une grenade de désencerclement. C'était lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Le crash en Iran d'un Boeing 737 de la compagnie nationale ukrainienne, il serait dû à un tir accidentel de missile iranien, d'après les premiers ministres canadiens et britanniques. Téhéran dément cette thèse et affirme qu'il dévoilera demain les causes de cette catastrophe. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, deuxième partie, Olivier Delagarde et ses invités.
20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Et toujours en compagnie de Marie-Virginie Klein, vice-présidente de Willa, association de créatrices d'entreprises. Franck Delieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Éric Scholl, directeur de la rédaction de L'Express. Et Arnaud Clair, avocat spécialisé en droit du travail au barreau de Paris. Alors on parlait il y a quelques minutes de cette convention citoyenne lancée pour tenter d'apaiser la colère des Gilets jaunes. Un autre de ces gestes d'apaisement fut la possibilité pour les départements de revenir sur cette fameuse limitation de vitesse à 80 km/h. Et ça n'a pas manqué. La Haute-Marne a décidé de revenir à cette limitation sur 476 km de son réseau. Alors Elisabeth Borne était l'invitée de France Info ce matin. Écoutez sa réponse pour le moins embarrassée.
Je pense qu'il faut faire confiance aux collectivités dont c'est la responsabilité. La possibilité leur a été donnée par la loi. Et donc voilà, les départements qui souhaitent faire ce choix prennent leurs responsabilités.
Bon, Arnaud Clair, est-ce que tout ça n'est quand même pas un affront fait au Premier ministre ?
C'est peut-être pas un affront, mais enfin moi je me souviens que quand la loi a été proposée, certains, pour freiner le Premier ministre, disaient, mais au lieu de le faire comme ça, proposer au département, disant au département, à vous de choisir si vous passez à 80 ou à 90. Là où je trouve qu'il y a une sorte d'affront, c'est qu'aujourd'hui, un an plus tard, il a fait marche arrière et il a donné la possibilité au département de modifier la loi. Donc en fait, ce qui était proposé au début et qui a été refusé par lui en disant non, je prends une décision et c'est comme ça et c'est pas autrement, un an après, en fait, on revient au point de départ et il laisse le département se débrouiller. Là où je suis un peu déçu, c'est que je me disais que pour une fois qu'on avait un politique qui était maire d'une ville moyenne, qui était donc
Premier ministre ?
Oui, tout à fait, proche du monde rural, en tout cas, qui pouvait avoir en tout cas une certaine connaissance, mais en tout cas, il n'avait pas connaissance, parce que pas comprendre qu'effectivement le monde rural avait besoin de sa voiture et qu'il avait besoin d'axes de circulation et que c'était important pour eux et de se lancer comme ça sur cette opération-là, alors qu'en plus, c'était même pas une promesse présidentielle à l'époque, ce qui m'a toujours étonné. Pourquoi on s'accroche comme ça à cette question ? Donc effectivement, c'est peut-être pas un affront, mais c'est pas très positif.
Marie-Virginie Klein, Premier ministre, boit le calice jusqu'à la lie.
Là, c'est pas facile. C'est un peu le risque de faire une politique de totem. C'est-à-dire qu'on parlait de l'âge pivot qui cristallisait toutes les attentions sur les retraites. Là, les 80 km, c'est vraiment un symbole. Et on se souvient de l'engagement d'Édouard Philippe sur le sujet. Vraiment, il avait donné une énergie absolument remarquable sur ces 80 km/h. Donc là, le risque, c'est effectivement, il n'y a qu'une zone là qui est pour l'instant engagée pour revenir sur ce sujet-là. C'est que ça se généralise complètement et puis qu'au fur et à mesure de la satisfaction des élus avec la politique du gouvernement, on est de plus en plus de routes sur lesquelles on peut rouler à 90. Enfin, oui, c'est symboliquement parlant, je trouve ça très puissant et dans le mauvais sens.
Franck Delieu, c'est également une dimension politique, hein, parce que Nicolas Lacroix, qui est le président du conseil départemental de la Haute-Marne, c'est un républicain.
Oui, oui. Moi, je pense
donc
que
c'est un geste politique.
C'est un geste politique à quelques semaines des élections municipales, effectivement. Et puis ça va. Il va y en avoir d'autres, hein, je pense. Hein. Mais au-delà de ça, la politique, les Républicains, le Parti socialiste, est-ce qu'il y aura une carte des 90 km/h qui sera une carte anti-LREM contre une carte des 80 quelque part, cette histoire des 80-90, c'est une sorte d'antagonisme qui dit plus que ce différentiel de vitesse, si vous voulez. Vous avez véritablement la France. C'est pour ça que je crois peut-être...
C'est la technostructure parisienne contre la ruralité française.
C'est la technostructure d'Édouard Philippe, JUPN, j'allais dire, qui est un affront sur les mêmes problématiques, finalement. Taxe carbone, âge pivot, tout ça, c'est des sujets techniques, c'est des sujets d'Excel, c'est des tableurs Excel. Bon, mais face au mur des réalités, on voit qu'il y a bien, effectivement, deux France, une France un peu, je dirais, la France périphérique, la France des fins de mois, qui est plutôt à 90 km/h, et puis la France techno, la France, je dirais, de la fin du monde.
La France de Marianne contre la France de l'Express, c'est ça? L'Express, Éric Jolle, directeur de la rédaction de l'Express, vous faites des yeux ronds, là, qu'on entend.
J'entends des choses qui me hérissent. Moi, j'ai envie de prendre le problème autrement. Vous voyez, ce passage aux 80 km/h, ça a permis 125 vies sauvées au deuxième semestre 2018. Ça a permis 81 vies sauvées au premier semestre 2019. Alors, je veux bien qu'on se batte, LREM, le politiser, etc. Mais il y a quand même, au départ, c'est pas pour emmerder le monde que le Premier ministre
voulait absolument passer aux 80. C'est comme ça que ça a été un peu perçu,
quand même. Oui, mais il y a derrière une réalité. La réalité, c'est la sécurité routière. C'était sauver des vies. C'est pour ça. Après, que dans la méthode, et je l'ai déjà dit ici à ce micro, que dans la méthode, c'était mal fait, qu'il ait fallu à cette époque une collaboration avec les départements, avec les collectivités locales, bien sûr, et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. On verra bien, maintenant on revient à plus de choix, plus de liberté, on verra si, de quelle façon les collectivités locales reprennent cette liberté, sachant qu'elles vont en avoir aussi la responsabilité, mais derrière il y a quand même une question de sécurité routière, et je pense que c'est quand même l'enjeu principal qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr que c'était aussi un déclencheur, je le sais, un des déclencheurs du mouvement des Gilets jaunes.
Arnaud Clair, vous avez oublié tous ces morts sauvés sur les routes.
Mais d'ailleurs, c'est l'argument principal pour les personnes qui voulaient faire baisser à 80, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est de dire on a sauvé des vies.
Et c'est ce que laisse entendre Elisabeth Borne en disant ils prendront leurs responsabilités. Vous voyez cette phrase. Mais quelque part, la réalité, oui, il y a une réalité, mais il y a aussi une complexité.
Mais en plus, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes qui s'étaient battues contre les 90 et qui gèrent des départements ne passent pas à 80. Parce qu'effectivement, il y a ce problème de responsabilité. Surtout, vous avez aujourd'hui.
Dès qu'il va y avoir un mort sur ces routes.
Voilà, surtout, vous avez le Conseil national de la sécurité routière qui a donné des préconisations si on passait à 80, qui sont excessivement dures. Et donc, aujourd'hui, revenir à 80, c'est prendre le risque d'être responsable des éventuels décès.
Mais il faut bien
assumer
sa responsabilité.
Mais
aussi.
Je ne dis pas le contraire.
On ne peut pas dire à la fois l'État décide tout. Et à un moment, on dit, décider. Quand on décide, il faut avoir la responsabilité de ce qu'on fait.
Ceci dit, c'est très dur à mesurer. C'est quand même très difficile de mesurer le nombre de vies sauvées sur un passage entre 90 et 80 km/h. Ce qui est compliqué, c'est que de ce point de vue-là, l'État semble un peu se déresponsabiliser en disant chacun s'occupe de sa chaumière et puis chacun en prend ses responsabilités.
Allez, il est 20h40 sur France Info. Vous regardez, vous écoutez les informés. Vous avez bien raison. L'info tout de suite avec Guillaume Fariol et puis on se retrouve juste après.
Édouard Philippe doit rencontrer dans la soirée le chef de l'État pour parler réforme des retraites. Réunion après une nouvelle journée de négociations à Matignon avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre fera demain des propositions concrètes par écrit aux organisations syndicales et patronales. Après ces discussions, le patron de la CFDT salue une volonté d'ouverture du Premier ministre sur la question de l'âge pivot. Le secrétaire général de la CGT réaffirme son désaccord avec la réforme. Après plus d'un mois de grève, les commerçants se portent mal. Le bilan des fêtes est mauvais, explique sur France Info Didier Kling, président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Le chiffre d'affaires de décembre est en baisse de 50% dans certains commerces, selon lui. Emmanuel Macron est depuis presque 2 heures maintenant face aux 150 Français qui composent la Convention citoyenne pour le climat. Ils sont chargés de faire des propositions au gouvernement pour lutter contre le réchauffement climatique. Le chef de l'État se prononce pour l'organisation d'un référendum sur certaines mesures qui sortiront de cette convention. Un homme placé en détention provisoire dans la Drôme après une violente dispute avec sa compagne, il l'a attrapé et suspendu dans le vide depuis le balcon de leur domicile la nuit dernière. Il comparaîtra lundi devant la justice. Et puis la reprise de la Ligue 1 de football, 20e journée, Rennes reçoit Marseille. Coup d'envoi dans un peu moins de 5 minutes.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et venons-en à ce dossier, à ces questions autour de ce crash de ce Boeing ukrainien mercredi en Iran. Crash qui a causé la mort, je vous le rappelle, de 176 personnes, dont 63 Canadiens. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui a jeté un gros pavé dans la mare en affirmant au cours d'une conférence de presse que ce crash n'est pas un accident. Écoutez.
Nous disposons de renseignements provenant de multiples sources, y compris de nos alliés et de nos propres renseignements. Les preuves indiquent que l'avion a été abattu par un missile solaire iranien.
Voilà, Justin Trudeau et Éric Scholz, l'Iran nie catégoriquement. Est-ce qu'on peut avoir des doutes sur les affirmations de Justin Trudeau ?
On va finir, je pense, par le savoir, si effectivement il parle, il a raison. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que différents pays se sont exprimés. Et d'ailleurs, certains ont déjà changé leur version depuis les premiers propos de Trudeau. On voit que l'Ukraine, je rappelle qu'une partie
l'avion est ukrainien,
et une partie des passagers étaient d'ailleurs étaient ukrainiens. Donc l'Ukraine était plutôt d'abord sur un accident et maintenant commence à évoquer la piste de ce missile. La même chose aux États-Unis, où il y a d'abord des doutes de Donald Trump, mais on sait aujourd'hui que le secrétaire d'État Pompeo a reconnu que c'était probablement un missile. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a différentes informations qui émanent de différents endroits, qu'elles sont pas encore recoupées. Il y a surtout ce qu'on voit, c'est qu'elles n'ont pas été non plus échangées. Et d'ailleurs, l'Ukraine aujourd'hui, le gouvernement ukrainien a des raisons d'être un peu furieux parce que en réalité, il n'a pas eu toutes les informations que l'Occident avait. Donc, on est en train d'assister à une sorte de bataille pour avoir la vérité. Alors, on le saura sans doute si effectivement via les boîtes noires, ça va être l'enjeu des tout prochains jours. Retrouver les boîtes noires et surtout retrouver ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes noires, et on saura peut-être ce qui s'est passé à Téhéran.
Alors on doit être prudent, hein, donc, puisque là on ne sait pas, mais enfin, hypothèse, effectivement, si cet avion a été abattu par un missile, qu'est-ce que ça change finalement, Marie-Virginie Klein, dans le bras de fer que se livrent iranien et américain depuis la mort du général Soleimani?
Bah, d'abord, faut rappeler le contexte. Si l'hypothèse du tir était validée, et encore une fois, on ne sait pas. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les réseaux sociaux, on voit déjà des réactions, et les réactions sont plutôt dans cette logique de c'est un tir et ce n'est pas un accident, parce que c'est quand même.
Les réseaux sociaux, attention.
Méfions-nous. Mais en tout cas, les réactions ne se font pas attendre. Donc, c'est quand même tout ça arrive dans un contexte de tension extrêmement forte, hein. Deux jours après l'assassinat, dans un contexte de tension entre les États-Unis et l'Iran absolument très fort. Donc les unités iraniennes auraient pu paniquer et se mettre à tirer un peu, de façon incontrôlée. Moi, j'ai un message peut-être d'espoir, mais peut-être pas. C'est-à-dire que si vraiment c'était un accident et si vraiment les troupes iraniennes avaient tiré sur l'avion et que c'était une erreur affreuse, peut-être que ça aboutirait à finalement diplomatiquement les Iraniens
à calmer le jeu.
À calmer un petit peu le jeu.
Parce que Franck de Dieu, ça fragilise quand même cette affaire, fragilise la position des Iraniens là.
Ça fragilise. Quelque part, on était là sur une pente un peu, j'allais dire, sur une pente descendante de désescalade, là, depuis quelques heures. Or, quel que soit, je dirais, le caractère intentionnel ou non du tir, j'ai l'impression que ça sera un prétexte pour, tendre un peu plus les relations. Pourquoi ? Parce que Téhéran se retrouve dans une situation très paradoxale. Elle a quand même la main sur la fameuse boîte noire qui permettra de dire non la vérité.
L'opinion publique internationale a même accepté.
C'est ça aussi le grand paradoxe, c'est qu'elle accepte la venue de Boeing pour, participer à l'analyse de la boîte noire ou du moins participer à l'enquête, et à la fois elle nie toute sa responsabilité. Donc il y a un moment donné où Téhéran va être face à ses contradictions. Ce qui pouvait y avoir comme une forme depuis quelques heures, attention, hein, de forme de désescalade, quelle que soit la nature du tir, qui soit intentionnel ou pas, ça crée un prétexte supplémentaire pour recréer, pour rajouter des tensions entre les parties.
Ah, donc Claire, ça remet de la tension ou ça fragilise la position de l'Iran et renforce quelque part Donald Trump?
Moi, je trouve que ça renforce l'Iran en interne, parce que ça change rien à la politique interne où les conservateurs, les gardiens de la révolution et tout ce qui s'est passé vont reprendre la main sur l'Iran, alors qu'il y a des législatives, je crois, en février ou en mars. Donc, ça
joue. Pas dire qu'il y a une opinion publique en plus en Iran.
Tout à fait.
Voilà.
Mais ce que je veux dire, donc ça va pas jouer sur ce terrain-là. Moi, je suis plutôt assez pessimiste là-dessus, parce que quand vous regardez l'avion qui était tombé en Ukraine en 2014, on s'est rendu compte qu'en fait l'enquête avait abouti un an, deux ans plus tard. Donc là, effectivement, il va y avoir une tension pour savoir qui va pouvoir analyser les boîtes noires, qui va faire l'enquête aux côtés des Iraniens. Est-ce que c'est les Français, les Allemands, les Américains, les Russes? Bref, ça va peut-être avoir le choix du pays d'enquête. Mais après, on aura la vérité et tout le monde aura intérêt à que ce qu'on ait la vérité le plus tard possible. Et malheureusement, ce genre d'enquête prenne du temps. Donc je pense qu'il y aura peut-être une tension là conjoncturelle, mais malheureusement, sur la réalité de ce qui s'est passé, peut-être qu'on va le savoir dans un temps beaucoup plus long, ce qui fait qu'on passera à autre chose.
Éric Jolle, qu'est-ce que ça change finalement aujourd'hui pour le pouvoir des Mollahs? Ça les fragilise pas du tout
Le pouvoir des Mollahs est relativement fragilisé par plusieurs semaines de manifestations et d'instabilité tout à la fin de l'année 2019. Il y a eu une contestation très forte, sans doute la plus forte contestation qu'on ait vue depuis la révolution de 1979. On dit qu'il y aurait eu 1500 morts dans les différentes villes iraniennes. Donc il y a quand même un pouvoir qui est à la fois qui essaye de rester, de garder le pouvoir, et de se raidir, de se radicaliser. Et d'un autre côté, une opinion... Il y a quand même eu des mesures, des sanctions économiques. Aujourd'hui une réelle contestation et une position d'ailleurs de l'Iran en dehors des frontières de l'Iran, en tout cas qui est plus difficile aujourd'hui. Néanmoins, l'acte, disons la décision de Donald Trump, qui était une décision très forte d'aller éliminer Soleimani en début de semaine, au fond, va signer sans doute sur l'Irak. L'Irak, qui est quand même aujourd'hui largement contrôlé par l'Iran, va signer sans doute peut-être... on va sans doute voir les Américains
le départ,
quitter.
Ouais, on n'y est pas encore.
Mais c'est un mouvement qui s'amorce. Et d'une certaine façon, ce retrait américain qu'on peut anticiper. Et ça fait déjà plusieurs années, en réalité, que les Américains songent à quitter, même du temps de Barack Obama. C'était déjà ça qui était en route et qui va peut-être s'accentuer.
Est-ce que ça renforce finalement aussi la position de Trump, cette affaire? Parce que finalement, on se dit que sa manière forte, il déstabilise le pays d'en face.
Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes dans une posture extrêmement manichéenne, effectivement, il se révèle qu'il y a un gentil, un méchant. Et quelque part, si le tir n'est pas intentionnel, pardon, je ne suis pas un expert de l'utilisation des missiles sol-air, mais enfin, on ne lance pas comme ça. Enfin, je veux dire, ça ne se passe pas. C'est quand même une procédure relativement...
Sinon, ça donne l'impression d'un pouvoir irresponsable.
Exactement. Donc, quelque part, ça joue. Si on est dans une posture très les gentils contre les méchants, ça le fait, j'ai envie de vous dire.
Ça le fait. Donc finalement, c'est plutôt bon pour Donald Trump, là.
Ça rentre dans son storytelling, quoi.
Je trouve que si c'est une erreur, après une erreur comme ça, qui est quand même, c'est un crash.
Ça délégitime l'armée.
Ça n'arrive jamais.
C'est hallucinant.
Ça arrive très rarement. Si, après une erreur comme ça, logiquement, je trouve que ça renforce Trump et les Iraniens vont quand même faire low profile, quoi.
20h50, on se retrouve dans un instant pour notre dernier débat, mais d'abord l'essentiel de l'information de ce vendredi soir, c'est avec vous Guillaume Fariol.
Emmanuel Macron promet des mesures fortes et ouvre la porte à un référendum sur certaines des mesures qui sortiront de la Convention citoyenne sur le climat. 150 Français qui planchent depuis 4 mois maintenant pour faire des propositions contre le réchauffement climatique. Le chef de l'État les rencontre en ce moment. Après un nouveau marathon de négociations sur la réforme des retraites aujourd'hui, Édouard Philippe fera des propositions concrètes demain aux partenaires sociaux. Les discussions ont permis de bien avancer, dit le Premier ministre. 80% des TGV, la moitié des TER, 2 Transiliens sur 5, les prévisions de la SNCF pour ce week-end et la grève qui se poursuit. La compagnie promet un retour progressif à la normale à partir de lundi. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Un policier qui semble tirer avec un LBD sur un manifestant quasi à bout portant pendant la manifestation contre la réforme des retraites à Paris hier. Le parquet ouvre une enquête. Les images sont parcellaires, répond la préfecture de police. Pour le chef de la diplomatie américaine, l'avion ukrainien qui s'est écrasé près de Téhéran avant-hier a probablement été abattu par un missile iranien. Cette thèse aussi envisagée par le Canada, le Royaume-Uni ou encore l'Ukraine. Téhéran dément, plus de 170 personnes sont mortes dans ce crash. Et puis en volée, la France remporte le premier set face à l'Allemagne. Finale du tournoi de qualification pour les JO de cet été, le vainqueur décrochera son ticket pour Tokyo. France.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, dernier débat ce soir, dernier débat de la semaine, on va évoquer tout de même un sujet un peu plus léger. On va parler d'un truc qui est à la fois agréable à recevoir, mais pénible à faire. Et puis comme on est en pleine saison, vous avez compris que nous allons parler des vœux. Est-ce que les vœux sont devenus ringards? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Dites-nous, tiens, Franck de Dieu, est-ce que vous envoyez toujours des vœux par la poste?
Non. Non. Pas par email.
Même pas par email non plus.
Ça a été SMS. Mais en revanche, je crois que c'est bien. Je crois que c'est utile, c'est une
sorte
de...
Alors, vous trouvez que c'est bien, mais vous le faites pas.
Non, envoyer ses vœux par SMS, c'est bien, et ça veut pas forcément dire que parce qu'on l'envoie par SMS, on fait un copier-coller, on change le prénom et on l'envoie à tout le monde. Non, ça peut être aussi une sorte de rituel, et ça peut, je crois, à mon sens... On peut être, compte tenu des circonstances, de la nouvelle année, puis là c'était une nouvelle décennie, être un peu dans le pathos. Vous voyez, c'est, on peut parler
je
un peu.
Je vois pas du tout ce que vous voulez dire.
Ah, si, vous voyez bien. On peut parler à corps ouvert. Vous voyez.
Marie-Virginie Klein, vous envoyez des vœux, vous?
Alors, moi, je vais vous paraître très old school, mais j'envoie des vœux et j'envoie des vœux papier. Je prends
une
ou deux journées.
Un peu épaisse.
Avec des... Ouais. Alors, ouais. C'est bon. Peut-être que c'est pas très écologique comme façon de faire, mais une fois par an, c'est vrai que je consacre 2-3 jours à écrire des vœux à ceux à qui j'ai envie d'écrire, qui me sont chers, que ce soit des proches, que ce soit des moins proches. Je trouve que les vœux, c'est un recommencement. On commence une nouvelle année, donc c'est aussi l'occasion de soit de reprendre une relation qu'on a perdue, soit de partir sur un terrain neuf. Moi, je passe beaucoup de temps et j'apporte beaucoup de soins aux vœux que j'envoie, et je préfère largement les envoyer soit avec des cartes très personnalisées ou avec des SMS personnalisés, mais par pitié, pas d'emails impersonnels qui sont plus des spams qu'autre chose.
On est d'accord, Marie-Virginie, Franck de Dieu, vous n'allez pas lui envoyer vos vœux. Hein.
Ah si, justement, il n'est pas trop tard.
Arnaud Clair, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ton est avocat? On envoie encore des vœux par la poste?
On a toujours envoyé des vœux par écrit, par la poste. Cette année, non, parce qu'on n'a pas pu s'organiser, mais ce qui n'est pas très bien. Mais on l'a toujours fait. Mais surtout, moi, je trouve que quand je reçois des vœux par une carte, ça fait beaucoup plus plaisir d'une certaine manière que par un SMS ou un email. Et moi, je suis assez attaché à l'écrit en plus. Donc, je trouve que c'est une tradition qui se perd un peu. Mais justement, au milieu de ceux qui ne font pas l'écrit par une carte ou par un envoi postal, je trouve qu'au moins ceux qui le font se détachent des autres parce qu'ils montrent l'effort d'avoir fait cette lettre et d'avoir pris le temps. Donc, je trouve ça assez intéressant et agréable.
Bon, old school et old les school. Modernes. Eric Scholl, vous êtes quoi? Vous êtes dans quel camp, vous?
Moi, je suis un gros flemmard, donc je n'arrive pas ni à prendre le temps. Et pourtant, j'adorerais faire ça. Mais d'autant plus que j'adore recevoir. En ce moment, je reçois beaucoup de cartes de vœux et c'est très agréable. C'est très, très, très agréable de vous trouver, de lire des cartes où, effectivement, quand on y a passé un petit peu de temps et que l'on soit personnalisé. Donc, j'aimerais pouvoir faire ça aussi.
Mais vous avez le même plaisir ou
non,
pas?
Non, les mails, non, pas du tout. Non, éventuellement des textos, mais à condition qu'ils soient effectivement personnalisés. C'est-à-dire, c'est l'occasion de dire quelque chose à quelqu'un au moment de la nouvelle année. Ça, c'est
bon, on est d'accord. Bon, donc, pas de mails, mais éventuellement des textos et puis sinon,
des
Valenciens. Parlons des politiques. Jean-Pierre Raffarin, par exemple, qui a souhaité ses voeux avec des chansons de Johnny Hallyday. Tenez, extrait de ce reportage France Bleu Poitou de Jules Brelaz.
Pour finir sa drôle de playlist de voeux, Jean-Pierre Raffarin choisit une chanson pour les Français, dit-il, à qui il conseille de...
Ouais, alors elle était très longue, hein, cette carte de vœux, parce que pour Ségolène Royal, il avait choisi la chanson « Tu parles trop », et pour Jean-Luc Mélenchon, « J'oublierai ton nom ». Pour les politiques, c'est une donnée de communication, Marie-Virginie Klein.
Ah, c'est un passage obligé. Alors là, je j'ai pas fait la liste des politiques qui n'ont pas fait leurs vœux, mais elle ne doit pas être très très longue. Non, là, je trouve que c'est assez original. Ce qui est compliqué, c'est les choses complètement convenues, dans laquelle il y a absolument aucune recherche. Très belle et heureuse année. Point. Bon, là, c'est sûr, c'est pas très utile parce que ça devient presque un réflexe. Mais à la Raffarin, c'est plus original.
Franck de Dieu, vous recevez beaucoup de vœux de journalistes, de politiques?
Ça m'arrive, oui, bien sûr. Alors malheureusement, c'est quand même, on sent que c'est pas très personnalisée. Enfin, il y a pas.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bah, souvent, là, vous savez, il y a les machines qui écrivent toutes seules, comme si on écrivait à la main.
Ils ont aussi un, quelque part un devoir.
Ça se reconnaît. Hein, je vous le signale, messieurs les politiques.
Ils ont un devoir de neutralité aussi. Alors, il peut y avoir un petit clin d'œil, mais. Effectivement, on en reçoit de moins en moins, en tout cas. Ça, c'est vrai. Je pense qu'il y a, on parlait de rapport à l'écrit, on parlait aussi du rapport à la lecture. Ben, tout, il est affecté chez toutes les professions et aussi chez les politiques qui écrivent moins et qui lisent moins aussi.
Vous savez quoi? Ben, moi, je vais vous présenter ici, là, comme ça, mes meilleurs vœux pour cette année. C'est encore la période. Vous avez compris qu'il faut maintenant qu'on arrête nos débats. Un mot sur le titre de vos hebdomadaires, tout de même, messieurs. Éric Scholl, à la une de l'Express.
Ce qui vous attend en 2020.
Voilà, et ce qui nous attend, c'est surtout une nouvelle formule de l'Express. La semaine prochaine, vous reviendrez nous en parler. Franck de Dieu, la une de Marianne cette semaine.
Ces 10 entreprises qui tiennent la France, on parlait de lobbying parlementaire. On a enquêté, on s'est aperçu qu'il y avait bien plus d'autres techniques pour... exercer de l'influence sur les politiques que du fameux classique lobbying parlementaire. Je vous en conseille la lecture.
Alors, on lira ça dans Marianne. Merci à Camille Laurence, Ludmila Viry, Virginie Lorda, Damien Sangali et Anne-Charlotte Guilhem qui nous ont aidés à faire les informés ce soir. Les informés, c'est terminé. Mais bien évidemment, l'info continue sur France Info.